18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à tous sur Europe 1, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Comme chaque jour, à la une de l'actualité ce soir, la colère des policiers à l'encontre de leur ministre Christophe Castaner. Ils ont manifesté aujourd'hui et tout à l'heure encore. On en parle dans un instant. C'est dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, la voix d'un ancien ministre de l'Intérieur, justement ce soir sur Europe 1, ancien Premier ministre Manuel Valls et mon invité. Quel regard porte-t-il sur ce ras-le-bol des forces de l'ordre et sur le climat tendu autour de l'affaire Traoré? Je lui pose toutes ces questions en direct, c'est dans moins de 20 minutes. 18h30, le débat des grandes voix avec au programme notamment la perspective d'un prochain remaniement. Vos questions, c'est au 39-21 que ça se passe. Et puis après 19h, demain débute la mythique course des 24 heures du Mans. Alors oui, mais attention, en version virtuelle. Comment ça va se passer? On en parle à 19h20 avec mon invité, le pilote Romain Grosjean, invité d'Europe 1. Et à 19h30, comme chaque vendredi, on se met en mode week-end, des idées de balade culturelle et de bonnes recettes. C'est avec vous, bien sûr, au 39-21, hashtag Europe 1. On écoute donc ensemble Le Monde Changé jusqu'à 20h et c'est sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Aujourd'hui, on est pu dire au président Macron qu'il doit soutenir, respecter, considérer sa police.
Cette fois, c'est au président qu'il demande des comptes. Les policiers en colère sous les fenêtres de l'Elysée. Rassemblement surprise pendant que Christophe Castaner continue de recevoir les syndicats.
De nouvelles manifestations contre les violences policières sont attendues demain et font craindre des débordements.
Quelle suite pour le déconfinement? Rien ne fuite du Conseil de défense qui a eu lieu aujourd'hui. Les pédiatres réclament d'une seule voix que les contraintes disparaissent de l'école.
Nous demandons vraiment avec insistance que les enfants puissent retrouver l'école et une école à visage humain.
Dans ce journal aussi, un magistrat de Dijon poursuivi pour avoir proposé sur Internet des relations sexuelles avec sa fille de 12 ans.
Et puis les libraires à la fête, les lecteurs, ça y est, sont enfin de retour.
On avait beaucoup de crainte d'avoir perdu les lecteurs pour toujours, quoi, presque. Hein. Et là, c'est reparti très fort. On est reparti sur les chapeaux de roue et ça, on ne s'y attendait pas.
La Bourse de Paris, léger rebond pour finir la semaine, plus 0,49% à 4 839 points.
Et du côté du ciel, bonsoir Valérie Darmon, le ciel de ce week-end.
Bonsoir à tous. Eh bien, prudence sous les orages, hein, surtout dans les heures à venir. Ils ne sont pas finis puisque la vigilance sur les 16 départements court jusqu'à demain, levée du jour au moins. Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Ardèche, Lozère, Gard, plus toutes les régions allant du sud-Bourgogne jusqu'en Moselle sont en orange. Le temps va rester instable encore demain toute la journée.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et justement, on va s'arrêter d'abord sur ces intempéries qui ont provoqué de très fortes pluies depuis hier soir sur les Cévennes, le Gard, la Lozère, des routes qui s'effondrent, plusieurs cours d'eau, dont le Tarn, qui sont sortis de leur lit. Johanna Chabas, ça a fait des dégâts.
Oui, c'est l'équivalent de 3-4 mois de pluie qui sont tombés en quelques heures tôt ce matin. Le Gard et le Tarn sont sortis de leur lit, des inondations violentes, destructrices, surtout à Saint-André-de-Magencoul, dans le nord-est du Gard. C'est un trou béant qui est apparu au milieu du village. Le maire de la commune, Christophe Boisson, est toujours sous le choc.
C'était vraiment très très impressionnant. Les routes n'existaient plus à certains endroits. Il y avait des gros trous. Vous avez un trou de 2,50 m, 3 m de profondeur en plein milieu, quoi. C'est allé jusqu'à nous déraciner les réseaux d'eau potable et d'assainissement qui étaient enterrés dessous. J'ai entendu ce matin une personne qui m'a dit que ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas eu autant de précipitations à cette période-là, quoi. C'est exceptionnel.
Il n'y a eu aucune victime, seulement des dégâts matériels. En tout, c'est une vingtaine de communes qui ont été touchées. Dans le département du Gard, 5 routes secondaires et 10 ponts restent fermés. Mais la situation s'améliore peu à peu. Les 2000 foyers privés d'électricité ce matin sont désormais réapprovisionnés. Et le département espère que la vigilance orange sera levée dans la soirée. Mais en Lozère, c'est toujours l'inquiétude. La préfecture craint de nouvelles montées des eaux dans la nuit.
Johanna Chabas, merci. 16 départements donc en vigilance orange ce soir pour pluie, inondation, orage. La météo complète pour la suite, c'est avec Valérie Darmon, donc à la fin du journal.
Venons-en maintenant à cette image du jour. La colère des policiers qui s'exprime cette fois sous les fenêtres du président de la République.
Oui, et ce n'est plus seulement à leur ministre Christophe Castaner qu'ils demandent des comptes. C'est à Emmanuel Macron. Manifestation surprise. Ce matin, plusieurs centaines de policiers se sont rassemblés place Beauvau, sur laquelle donne aussi le palais de l'Elysée. Le ministre de l'Intérieur continue pendant ce temps à recevoir un à un les syndicats. mais sans parvenir à éteindre l'incendie. Mathieu Bock.
Environ 200 policiers et une cinquantaine de véhicules qui descendent les Champs-Élysées. C'est un coup de force qu'ont réussi les syndicats. Aucun collègue en service pour les stopper ni même les encadrer. Au contraire, les voitures de police allument leurs sirènes pour saluer le cortège qui a ainsi pu venir sous les fenêtres de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur chanter la Marseillaise. Fabien Van Hemelrijk est le secrétaire général du syndicat Alliance. Il s'est directement adressé à Emmanuel Macron, voisin de la place Beauvau.
Il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur, hein, c'est important. Au-dessus du ministre de l'Intérieur, le président Macron. Donc aujourd'hui, on est venu dire au président Macron qu'il doit soutenir, respecter, considérer sa police. Tout ce qu'on entend autour de nous, sur la police raciste notamment, sur le fait des violences policières, moi j'ai juste à répondre que la police n'est pas raciste. Elle réprime quand elle a besoin de réprimer, et forcément, elle ne choisit pas sa délinquance. Elle ne choisit pas la couleur de la délinquance, c'est-à-dire qu'elle interpelle l'individu. Le gouvernement doit faire en sorte de sanctionner ceux qui nous agressent, qui nous massacrent. Pour reprendre certains propos d'une certaine chanteuse, les collègues ils sont professionnels mais ils n'en peuvent plus.
Les policiers attendent désormais une réponse claire de la part du chef de l'État dimanche soir lors de son allocution télévisée.
Mathieu Bock, place Beauvau pour Europe 1.
Et des manifestations aussi à Bordeaux, à Marseille, Nantes et devant l'aéroport d'Orly. Alors que doit dire l'exécutif ? Christophe Castaner peut-il tenir ? On va y revenir avec Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur, juste après ce journal. Il est mon invité et avec les grandes voix, c'est à 18h30.
Et pour la garde des Sceaux, c'est un mouvement d'humeur qui s'apaisera. Voilà ce qu'a dit aujourd'hui Nicole Belloubet, sujet dont c'est aussi Marine Le Pen, qui a rendu visite à un commissariat. Elle dénonce l'abandon des policiers et la présomption de culpabilité qui les vise. Demain, ce sont de nouvelles manifestations contre les violences policières qui sont attendues dans plusieurs villes. À Paris, le préfet de police demande aux commerces et aux restaurants de fermer sur le parcours, craignant des débordements. Et à Nantes, la manifestation là a été interdite.
Et donc, verdict dimanche, on verra alors si Emmanuel Macron évoque bel et bien ces tensions devant les Français.
Oui, parce que ce ne sera pas le sujet principal de son intervention à 20h, qui est surtout destiné à évoquer le déconfinement et l'après-crise. Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Cette prochaine étape, elle s'est dessinée aujourd'hui à l'Élysée lors d'une réunion avec le Conseil scientifique. Mais à ce stade, aucune décision ne fuite.
Aucune fuite, non. Silence radio du côté de l'exécutif. Un conseiller très bien informé me confiait il y a quelques minutes qu'il faudrait probablement effectivement attendre dimanche soir et l'allocution du président. La journée de réunion à l'Élysée a néanmoins certainement donné la couleur des prochaines semaines. Le conseil scientifique explique depuis plusieurs jours que l'épidémie est sous contrôle et le conseil de défense dans la matinée à l'Élysée devait trancher sur des points de plus en plus sensibles, les restaurants en Ile-de-France par exemple et l'école. Certains espèrent une levée plus rapide des restrictions dans les prochains jours. Au sommet de l'État, on a bien saisi l'impatience grandissante des Français, l'inquiétude des milieux économiques et les conséquences parfois déjà dramatiques sur l'emploi. Mais le maître mot reste la prudence, notamment sur les grands rassemblements qui donnent encore des surfroids au ministère de la Santé. Seule certitude, selon un proche d'Olivier Véran à qui j'ai pu parler, la situation actuelle dans l'Est ne remet pas en cause les schémas optimistes. Il faudra néanmoins attendre dimanche soir pour qu'Emmanuel Macron lève le voile sur les derniers détails du déconfinement.
Eh bien, on va attendre dimanche soir. Alors, merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Est-ce que l'on attend, ce que les parents notamment attendent, les salariés, c'est une décision sur l'école ? Faut-il assouplir les règles et accueillir plus d'élèves sans attendre ?
C'est ce que réclament les pédiatres dans une tribune signée par l'ensemble des sociétés de pédiatrie. Tous les enfants doivent retourner en classe et cela dès aujourd'hui. Voilà ce qu'ils écrivent. Ces enfants qui ont plus souffert du confinement que du virus estiment Fabienne Cochère, la présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Nous demandons vraiment avec insistance que les enfants puissent retrouver l'école et une école à visage humain. Moi, je suis spécialisée pour le suivi d'enfants qui présentent des troubles des apprentissages. J'ai des enfants qui sont en difficulté scolaire à ma consultation, qui ne sont pas retournés à l'école parce qu'on leur a dit « Vous savez, votre enfant, il ne pourra pas respecter les gestes barrières. » Un enfant qui a une dyslexie ne peut pas respecter le lavage des mains. Enfin, c'est maltraitant. C'est l'application du protocole qui a abouti à une situation de maltraitance pour les enfants et pour les familles.
La pédiatre Fabienne Cochère, elle répondait à Marion Calais. Un déconfinement qui va probablement s'accélérer au vu des indicateurs positifs. Toujours aucun signal de reprise de l'épidémie, dit Santé publique France. Et aucun excédent de mortalité au mois de mai, constate l'INSEE, alors que la mortalité avait été plus marquée en mars et en avril. partiel.
Et sur le plan économique, maintenant, l'indemnisation versée au titre du chômage partiel pourrait baisser à partir du 1er juillet. C'est ce qu'évoque la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher. Une concertation est en cours.
Et le déficit du système des retraites va, lui, s'envoler à cause de la crise. Il va approcher les 30 milliards d'euros cette année. C'est 25 milliards de plus que ce qui était anticipé.
Europe 1.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h et nous vous le révélions ce matin, cette histoire incroyable. Un magistrat de Dijon mis en examen pour avoir proposé à des inconnus des relations sexuelles avec sa fille de 12 ans. C'est à suivre dans cette édition de 18h.
Et puis les lecteurs sont bien de retour et les libraires sont à la fête.
Et on se retrouve pour la suite de cette édition de 18h et nous en venons, Sébastien, à cette histoire que nous vous avons révélée sur Europe 1 ce matin. Ce magistrat de Dijon soupçonné d'avoir proposé à des inconnus des rapports sexuels avec sa propre fille.
Oui, avec sa femme qui est elle aussi magistrate à Dijon. Il recherchait sur des forums, sur internet, des rencontres libertines avec d'autres couples. Sauf que l'homme de 55 ans proposait aussi photo à l'appui que sa fille de 12 ans participe. Guillaume Bié, ce magistrat, est mis en examen et il reconnaît les faits.
Oui, oui, il a tout de suite avoué, mais il assure qu'il s'agissait de fantasmes uniquement et qu'il n'aurait jamais laissé de tels actes se réaliser. Il n'empêche, ses propositions sur Internet étaient explicites et il les a multipliées. La justice en a la preuve, car dans cette enquête qui a duré 8 mois, un policier a eu la mission de s'infiltrer sur le forum où le suspect formulait son offre, explique le procureur de Besançon, Étienne Manteau.
Il a été notamment mis en place une enquête sous pseudonyme, c'est-à-dire d'une enquête où un enquêteur policier est autorisé à agir sous pseudonyme sans pousser à la provocation de la commission d'infraction, mais pour entrer en relation avec le suspect, pour confirmer ou non le fait qu'il recherchait des rapports sexuels avec des mineurs. Et donc, c'est effectivement dans ce cadre-là qu'il y a eu des interpellations la semaine dernière.
Placement en garde à vue, mise en examen, contrôle judiciaire, pas de traitement de faveur pour ce magistrat, estime le procureur. Pas d'incarcération provisoire non plus parce qu'il s'agit au final d'une affaire d'offre. Certes, c'est un délit très grave, mais il n'y a pas eu de passage à l'acte. La fillette n'a rien subi. Sa mère est hors de cause. Le magistrat, lui, sera probablement jugé et il fera aussi l'objet d'une procédure disciplinaire.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. À Marseille, en pleine campagne pour les municipales, c'est la candidate LR Martine Vassal qui est pointée du doigt. Son équipe est soupçonnée de pratiques frauduleuses. Des procurations facilitées auraient été proposées sans le passage obligatoire au commissariat. Après ces révélations de nos confrères de France 2, Martine Vassal répond au micro d'Europe 1. On l'entendra tout à l'heure dans le journal de 19h.
Et puis en Italie maintenant, la gestion de la crise en question. Le Premier ministre Giuseppe Conte a lui-même été entendu pendant près de 3 heures par la justice.
Et par la procureure de Bergame qui mène plusieurs enquêtes pour déterminer les responsabilités, notamment sur les retards pris pour confiner les premières villes touchées par le virus dans cette région de Lombardie. L'Italie qui relance par ailleurs ce soir son championnat de foot, Juventus-Turin, Milan AC.
Et puis, plus léger, on va terminer avec les libraires. Ils commencent à retrouver le sourire.
Oui, demain, c'est la fête des librairies indépendantes, 480 en France, qui organisent des événements. Une fête qui aurait dû se tenir en avril, période où évidemment tout était fermé. Depuis, les lecteurs sont bien de retour et les libraires, qu'on savait très inquiets, mais sont finalement plutôt rassurés, Justin Morin.
Oui, ce n'est pas Noël, mais presque. Dans cette librairie des Abbesses à Montmartre où je me trouve, les lecteurs sont là, dans les petites allées au milieu des piles de livres, près des échelles postées ça et là pour aller chercher les ouvrages un peu trop perchés. Il y a aussi Marie-Rose Garnieri, la charismatique libraire.
C'est reparti très fort. On est reparti sur les chapeaux de roue et ça, on ne s'y attendait pas. On était un peu, vous voyez, dans les spectatives, on avait beaucoup de crainte d'avoir perdu les lecteurs pour toujours, quoi, presque. Et là, la joie, ça a été de voir combien le livre, les lecteurs y tenaient beaucoup. C'est comme si on renaissait. C'était une renaissance, quoi, vraiment.
La vraie crainte, c'était celle de voir les habitudes des lecteurs changer après 2 mois de confinement. Pendant que les libraires rongeaient leurs freins, le géant Amazon a continué de vendre des livres. Mais Marie-Rose Garnieri constate que les lecteurs sont restés fidèles. Serge, par exemple, vient d'entrer. Il vient souvent ici.
Ça m'arrive de lire quand même, pour passer sa vieillesse.
À 76 ans, c'est un plaisir renouvelé de côtoyer tous ces livres.
Ce serait dommage que toutes ces librairies disparaissent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté sympathique, parce que c'est vraiment des librairies où on est accueilli, quoi. Il y a un côté, pas se laisser bouffer par les GAFA.
Demain, la chanteuse Olivia Ruiz, habitante du quartier, elle aussi défenseur des librairies indépendantes, viendra présenter son livre et chanter quelques chansons.
Un reportage de Justin Morin à la librairie des Abbesses à Paris.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. On se retrouve évidemment avec de nouvelles infos à 18h30. On lève la tête, Valérie Darmon. On regarde du côté de ces intempéries avec de puissants orages même. Hein.
Effectivement, il pleut toujours fortement sur les départements allant des Cévennes jusqu'au Morvan, donnant des cumuls conséquents, voire des records de pluie. Hein. Par exemple, à Villefort en Lozère, en 24 heures, il est tombé 264,9 mm. C'est ce département de la Lozère hein, qui est le plus touché par les pluies orageuses. Depuis hier soir, il y est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie. Les autres départements du Massif central ont été moins touchés. C'est au tour cette nuit des départements allant du sud de la Bourgogne aux frontières de l'Est d'être copieusement arrosés. Les fortes pluies et les orages vont remonter. Et il remonte d'ailleurs en ce moment même sur les images satellites en direction du Grand Est, mais baisse progressivement, très lentement, d'intensité sur les Cévennes et le relief auvergnat. Donc ce soir, l'activité orageuse faiblit rapidement sur le Massif central, mais elle se maintient très fortement sur le Grand Est, avec de la grêle et de fortes rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Soyez très prudents si vous circulez dans ces régions-là.
Europe 1. Évidemment, on va se retrouver dans une seconde avec mon invité ce soir. On l'a entendu, le ras-le-bol des policiers qui demandent des comptes à Christophe Castaner et interpellent le chef de l'État. Que doit faire le président de la République? Faut-il changer de ministre de l'Intérieur? Je pose la question à quelqu'un qui connaît parfaitement la fonction. Manuel Valls, ancien locataire de la place Beauvau, ancien Premier ministre. Il est mon invité. Ça se passe sur Europe 1 et c'est dans un instant. Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview avec mon invité ce soir pour évoquer le ras-le-bol des policiers, mais également ce climat électrique en France, Christophe Castaner sous pression. Bonsoir Manuel Valls.
Bonsoir.
Merci beaucoup de répondre à mes questions ce soir sur Europe 1. Manuel Valls, évidemment ancien locataire de la place Beauvau, ancien Premier ministre. Alors, dépôt de leurs menottes au sol dans plusieurs villes de France, manifestation à l'appel de 4 syndicats aujourd'hui sur les Champs-Élysées et jusque sous les fenêtres hein, du président de la République. Comprenez-vous alors qu'il est la colère des policiers qui ont défilé aujourd'hui?
Oui, bien sûr, parce que les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes qui eux ne peuvent pas manifester, sont soumis à rude épreuve maintenant depuis plusieurs années. Vous le savez, vous le rappelez, l'engagement face au terrorisme, l'engagement quotidien face à la délinquance, l'engagement très rude au moment des manifestations des Gilets jaunes. Et moi, je considère que les policiers et les gendarmes ont fait tenir la République et l'État à ce moment-là. Donc, nous leur devons toute notre reconnaissance et un engagement dans des conditions difficiles encore ces dernières semaines pendant cette pandémie du Covid. Donc les policiers et les gendarmes peuvent avoir parfois le sentiment de ne pas être suffisamment soutenus et protégés, d'où ces mouvements, d'où ces manifestations. Et puis peut-être plus grave encore, le sentiment d'un double mouvement, et ça je vous le dis très honnêtement et très franchement, moi qui ai pris un peu de recul, d'un mouvement qui vise, au nom d'une certaine vision qui nous vient d'Amérique, de casser, de briser les fondements même de la République, profitant d'une indignation légitime avec ce meurtre effrayant de George Floyd. Et puis, deuxièmement, la mise en cause de la police, qui serait considérée, au même titre que l'État, comme une police au service des Blancs et une police raciste. Et ça, alors, c'est tout à fait insupportable.
Si j'entends ce que vous me dites, Manuel Valls, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer, et c'est le sentiment hein, d'ailleurs qui anime les forces de l'ordre, que Christophe Castaner a désavoué la police?
Non, je ne crois pas. Et la tâche de Christophe Castaner, que je connais bien depuis longtemps, est particulièrement difficile, la sienne et celle de Laurent Nunez, qui est aussi un grand professionnel de l'État, à eux maintenant de discuter avec des syndicats, avec des représentants de la police, et de remettre de la confiance. Le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France, hein, depuis Georges Clemenceau, et c'est ainsi, moi, que je me voyais, c'est le premier flic de France, c'est-à-dire qu'il doit protéger les policiers et les gendarmes. Il doit les protéger, il doit bien sûr punir, écarter tout policier ou tout gendarme qui ne respecterait pas le code de déontologie, les principes républicains, et donc tout mot et tout acte raciste doit être sanctionné. Mais rappelons que la police et la gendarmerie française sont particulièrement sous contrôle, et notamment des inspections générales.
Est-ce qu'il doit revenir,
donc,
Manuel
Valls? C'est le moment de redonner confiance.
Alors,
c'est
leur redonner confiance comment, Manuel Valls? Apparemment, cet après-midi, en recevant encore les syndicats, il fait son mea culpa, il part de défauts de communication. S'il revient sur la sanction envisagée pour chaque mot raciste, comme vous l'avez évoqué dans la police, s'il rétablit la clé d'étranglement, cette technique d'interpellation qui manquerait pour les forces de l'ordre, ils l'ont dit très clairement depuis quelques jours, est-ce que cela, c'est de nature à ramener le calme et à ramener la confiance?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans ces discussions. Ça n'est pas la première fois, reconnaissons-le, qu'il y a des policiers dans la rue.
Dans la rue, et vous avez connu ça notamment en 2001, vous-même.
Et ça n'est pas la première fois qu'il y a des débats sur les techniques d'intervention, sur les modes opératoires. Et donc, il peut y avoir une discussion, mais évidemment, ces discussions doivent avoir lieu avec les professionnels. Il doit avoir lieu avec la hiérarchie, avec les représentants des policiers ou des gendarmes. Ce sont des techniques qu'on apprend dans les écoles de police et de gendarmerie qui sont particulièrement difficiles. Donc, il faut qu'il y ait cette discussion. On ne peut pas avoir un débat et le trancher devant l'opinion publique en quelques secondes. Et puis j'insiste sur un sujet. Il y a une forme de désaveu aussi des inspections générales. On peut toujours les améliorer. Moi, je les avais réformées en 2013 quand j'étais ministre de l'Intérieur, comme j'avais d'ailleurs refondu le code de déontologie ou mis en place le numéro de matricule ou d'immatriculation ou d'identification pour chaque policier, pour chaque gendarme. Mais ça doit se faire avec de la méthode.
Avec de la méthode respect, et avec de la concertation. Et avec de la concertation, c'est ce que vous avez dit. Pourquoi, comment vous expliquez qu'on n'ait pas mis tout le monde autour d'une table avant de prendre la parole pour Christophe Castaner il y a 72 heures de cela maintenant? La situation était bien sûr électrique. On a vu les manifestations en France, 20 000 personnes. Mais normalement, c'est le préalable, non? Comment ça s'explique?
Oui, mais moi qui ai gouverné, je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui gouvernent aujourd'hui. C'est difficile, ça va vite et il faut faire attention. L'émotion par rapport à George Floyd, je le répète, est légitime. Et d'ailleurs, qu'il y ait des mouvements dans le monde entier qui se lèvent contre le racisme, c'est une belle chose et que ça concerne notamment la jeunesse de notre pays. Moi, je m'en félicite. Mais l'émotion ne peut pas submerger la raison. Et la loi.
Justement, l'émotion, elle est montée jusqu'à l'Élysée, évidemment, de quoi troubler naturellement Emmanuel Macron après cette crise du Covid, avant peut-être cette déroute au municipal, un Emmanuel Macron qui aurait donc poussé son ministre de l'Intérieur.
Oui, mais vous-même, vous pourriez dire parfois, à l'égard de ceux qui gouvernent, et donc à l'égard du président de la République, ne serait pas suffisamment attentif à ce qui se passe dans le pays. Donc l'équilibre n'est jamais facile. Mais dans ces moments-là, nous faisons face partout à une crise de confiance, et notamment en France, une crise économique et sociale très dure qui s'annonce. Il y a des fractures dans notre pays. Les institutions républicaines, dont la police et la gendarmerie sont les piliers, doivent être protégées et soutenues. Donc l'émotion ne peut pas remplacer la raison. Et c'est au chef de l'État, il le fera sans doute pas dimanche, de rappeler ses principes.
C'est à lui de prendre... Vous pensez que dimanche, il ne fera pas effectivement ce qu'attendent les policiers? Parce qu'aujourd'hui, ils en appellent à lui. Quand ils vont ce matin sous les fenêtres du palais de l'Élysée, c'est bien pour dire maintenant, on ne parle plus de Christophe Castaner, on veut parler à Emmanuel Macron et on veut ses mots.
Oui, mais c'est un classique. On s'adresse toujours à plus haut. J'imagine que le président de la République, moi je ne suis pas dans les secrets, va surtout évoquer la fin du confinement et ouvrir une nouvelle étape qui est la reconstruction économique. Mais
il y a une urgence, Manuel Valls.
Mais bien sûr, il y a urgence, parce que dans nos sociétés, les questions économiques et sociales sont essentielles, je pense au chômage ou à la pauvreté ou aux inégalités, mais la question identitaire, la question culturelle, la défense de la République et des institutions, les valeurs qui sont la France, au fond, notre modèle n'est pas le modèle américain, nous ne sommes pas des blancs et des noirs, nous ne sommes pas des communautés qui s'affrontent, il n'y a pas un débat sur la complexité de l'homme blanc, nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis, donc il est important que le chef de l'État rappelle aussi ses fondements, ce que nous sommes, d'où nous venons, et dans ce que nous sommes, il y a la défense des institutions et donc de la police et de la gendarmerie qui font un travail remarquable. Moi, j'étais ministre de l'Intérieur et j'aime ces flics et ces gendarmes qui, tous les jours, qui viennent de milieux modestes, font un travail difficile, et notamment dans les quartiers populaires.
Merci beaucoup Manuel Valls d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Merci à vous.
Merci, bonne soirée. Europe 1.
Et les grandes voix s'installent dans un instant dans ce studio. Michel Cotta, Frédéric Dabi de l'IFOP et Alain Co, chef du service police-justice d'Europe 1, pour nous éclairer, bien entendu, sur ce qui se passe en France depuis maintenant plusieurs jours. Au programme, donc, on revient sur cette colère des policiers, puis la perspective d'un remaniement, comment y voir clair. C'est dans deux minutes, c'est sur Europe 1, c'est dans votre grand journal du soir. Et c'est l'heure de votre rappel des titres à 18h30 sur Europe 1. Sébastien Krebs.
Il s'adresse désormais à Emmanuel Macron. Les policiers demandent à être reçus à l'Élysée après la rupture de confiance avec leur ministre Christophe Castaner sur le racisme et les méthodes d'interpellation. Plusieurs centaines ont manifesté aujourd'hui sur les Champs-Élysées à Paris et dans d'autres villes aussi. Demain, les rassemblements prévus cette fois contre les violences policières font craindre des débordements. À Paris, le préfet de police demande au commerce de fermer sur le parcours. On y revient à 19h. Rien ne fuite sur les décisions prises par le Conseil de défense aujourd'hui sur le déconfinement. Emmanuel Macron les annoncera dimanche soir. Le président qui fera ensuite son premier déplacement à l'étranger depuis le confinement jeudi prochain pour marquer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Il sera à Londres, il sera accueilli par le prince Charles. British Airways, EasyJet et Ryanair, trois compagnies aériennes, lancent une action en justice contre le gouvernement britannique. Ils réclament la levée de la quarantaine imposée aux voyageurs. En France, le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, visé par une enquête du parquet national financier pour corruption et prise illégale d'intérêts. Enquête qui porte sur deux lithographies qu'il a reçues en cadeau en 2017 alors qu'il était député et maire d'Annonay. Enfin, l'incertitude sur la tenue de l'US Open de tennis à New York, prévu fin août. Plusieurs joueurs, dont Djokovic ou Zverev, sont réticents face au protocole drastique imposé par les autorités américaines. Difficile d'imaginer que le tournoi puisse se tenir, estime Richard Gasquet.
Merci beaucoup Sébastien Krebs, on se retrouve à 19h avec votre journal complet. Du côté du ciel, Valérie Darmon, encore des orages hein, jusqu'à la deuxième partie de nuit et ça va vraiment tonner.
Effectivement, depuis la plaine de Saône vers le nord franc-comtois, la Haute-Marne, la Lorraine, ils sont localement violents. Ils s'accompagnent de rafales autour de 100 km/h et ponctuellement d'ailleurs plus d'une activité électrique intense évidemment et de fortes pluies. L'activité orageuse devrait faiblir en fin de nuit et demain on va retrouver cette instabilité en moins intense partout, excepté le matin entre Lille et la Champagne, ensoleillé, et l'après-midi en vallée de la Garonne, un petit peu plus variable.
Europe 1.
Et c'est l'heure des grandes voix jusqu'à 19h, comme chaque soir, dans ce studio, bien sûr. Michel Cotta, bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bonsoir Frédéric David Lifop, bienvenue.
Bonsoir.
Et Alain Co, chef du service police-justice d'Europe 1, bienvenue à tous les trois. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Merci d'être à mes côtés ce soir pour revenir, bien sûr, sur la colère des forces de l'ordre. On l'a entendu, on l'a vu aussi un peu partout en France, des pots de menottes devant, sous les fenêtres de l'Élysée, entre la place Beauvau et l'Élysée ce matin. On va y revenir dans un instant. Une réaction également ce matin dans un commissariat de Villeneuve-la-Garenne, la présidente du Rassemblement National. Écoutons.
Il est évident qu'il n'est pas à sa place. Et il n'a jamais été à sa place en réalité. Et il l'est encore moins aujourd'hui. Il lance quand même la suppression de méthodes d'interpellation sans mettre en place des méthodes d'interpellation alternatives. Tout cela crée un danger, mais encore une fois un danger pour nos forces de l'ordre, mais également un danger pour la population, car les forces de l'ordre sont là pour protéger la population.
Il, c'est bien sûr Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui reçoit encore les syndicats à l'heure où nous parlons. Il est sous pression, peut-il tenir? C'est une des questions évidemment qui se posent hein, dans le vacarme actuel. Alain Co, qu'est-ce qui se joue en ce moment et comment cela avance au regard là, des dernières heures entre des policiers très remontés et un ministre qui a d'une certaine manière, qui les a heurtés,
Oui, ils ont le sentiment d'avoir été trahis pendant deux ans, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Christophe Castaner a montré des preuves d'amour à l'égard de ses policiers. Il les a soutenus, il a minimisé, voire nié parfois les violences qui pouvaient leur être attribuées, les nombreuses blessures pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ils avaient vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un qui les soutenait. Et là, d'un seul coup, ils ont vraiment le sentiment que cette même personne, ce premier flic de France, comme disait Manuel Valls il y a quelques instants, les avait trahi. Alors, c'est un sentiment qui n'est pas forcément, qui est très émotionnel. Hein. Quand on leur fait lire précisément les mots du discours, ils en découvrent des parties entières qu'ils n'ont pas entendues. Parce qu'aujourd'hui, les mots de Christophe Castaner sont inaudibles. les policiers ont retenu certains mots qui les ont heurtés et oublient les autres.
Ouais. Frédéric Dabi, Michel Cotta, l'électricité est dans l'air, il faut réagir très vite. Aujourd'hui, les policiers en appellent directement à Emmanuel Macron pour sortir de cela. Michel Cotta.
Je ne suis pas sûre qu'il faille réagir si
c'est une
vite
question.
Que ça.
C'est une question.
Non, mais je ne suis pas sûre, par exemple, que Castaner ait bien peaufiné son discours, si vous voulez, ou attendu avant de le délivrer. Parce qu'effectivement, il y a deux ou trois expressions maladresses qui apparaissent nettement. Mais c'est vrai qu'il est sur une pente, c'est sur une ligne de crête difficile, parce que je regardais par exemple le débat au Sénat. Alors on voit à la fois la députée, le sénateur du président du groupe communiste qui dit que l'impunité des policiers est impossible, et à la fois la droite qui dit il faut rompre. C'est vraiment
des deux côtés de l'échiquier, de tous les côtés de l'échiquier politique, il est la cible clairement.
Il cède aux sirènes du communautarisme. Bon, alors c'est vrai qu'il est vraiment pris entre deux. Donc voilà, il faut retenir sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, et peut-être a-t-il au contraire parlé trop tôt.
C'est ce qu'il commence à dire d'ailleurs, Frédéric Dabi, là cet après-midi, Alain Acon nous le redira, mais il commence à faire une forme de mea culpa.
Oui, en plus tout ça s'inscrit dans un contexte d'opinion très compliqué pour Christophe Castaner, en décalage avec ce que vous venez de dire sur son code d'opinion dans la police. Pendant la période des gilets jaunes, il a été extrêmement fragilisé, avec le sentiment qu'il était incapable d'assurer l'ordre. Il a retrouvé des couleurs chez les Français pendant le confinement, où on a l'impression que c'était plutôt bien organisé. Et là, de nouveau, dans la dernière enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, où on a vu qu'il s'est effondré en termes de popularité, notamment à gauche, notamment chez les sympathisants du RN et de la France insoumise. C'est clairement un ministre fragilisé, alors qu'on sait que c'est un élément fondamental de l'édifice macronien.
Bien
c'est
sûr.
Un des premiers macroniens.
Bien sûr.
Et dans un contexte où les Français sont extrêmement quand même polarisés, bien sûr sur les questions économiques, mais également sur les questions de sécurité.
Alain Acco, on sent qu'il y a une étape de mea culpa, enfin en tout cas on va vers un mea culpa du côté de Christophe Castaner.
Hier, il a reçu les syndicats qui ont le plus de pouvoir de nuisance dans la police. Les trois plus gros syndicats de gardiens de la paix, c'est le gros des troupes. Et en sortant, ces syndicalistes, ces chefs syndicaux, nous disent effectivement qu'ils ont entendu le ministre concéder une erreur sur le terme de soupçon avéré qui devrait justifier une suspension systématique. Ils ont cru entendre dans sa bouche qu'il réfléchissait à une porte de sortie sur la clé d'étranglement qu'il a fallu supprimer, mais peut-être qu'on va trouver une autre moyen, une autre technique qui ne porterait pas exactement le même nom pour faire passer la pilule et pas se renier complètement publiquement. Mais c'est là encore une ligne de crête sémantique qui va être extrêmement difficile pour lui.
Parce qu'il y a un tel rétro-pédalage. Votre invité d'hier disait, juste avant nous, on ne demande pas la démission de Christophe Castaner.
Sauf qu'il disait, Yves Lefebvre, du syndicat LGBT, qui disait qu'il était indigne
Une grande
en même
agressivité,
temps.
Voilà. Mais à la fois... Il n'est pas interdit de penser qu'il puisse rester. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas sûre. Mais je pense quand même que les syndicats reçus aujourd'hui ont été, je trouve, encore plus ouverts
et proposants.
Une sorte de Grenelle.
Je voudrais qu'on y revienne dans un petit instant avec vous trois, parce que, évidemment, c'est le gros sujet du moment. Et puis, il y a une nouvelle manifestation demain et une nouvelle manifestation aussi en soutien en mémoire de George Floyd et donc le rapprochement qui est fait avec Adama Traoré. Et la question aussi, c'est de savoir comment fonctionne le duo Castaner-Nunez. On va regarder un petit peu de plus près avec vous les grandes voix jusqu'à 19h. C'est dans votre grand journal du soir. Oui, on est ensemble évidemment jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec les grandes voix. Dans ce studio, Alain Acco, Michel Cotta, Frédéric Dabi, pour revenir à la fois sur Castaner, qui reçoit à l'heure actuelle encore les forces de l'ordre. Alain Acco, ils en sortent là à l'instant et on a quel son de cloche ?
Le dernier à sortir, c'était David Lobars, le représentant du syndicat des commissaires, qui vient de déclarer à la sortie que le ministre avait reconnu avoir commis une faute, et notamment la faute dont on parlait tout à l'heure sur les soupçons avérés. Et puis en ce qui concerne la technique d'interpellation, il n'a pas été jusqu'au bout, mais il nous annonce que Christophe Castaner va écrire ce soir aux policiers directement, pour s'expliquer sur la technique d'interpellation qu'il faudra utiliser, ou qu'on pourra en tout cas utilisées et le ministre leur a garanti qu'il n'y aura pas de zone grise, que ce sera clair et net. Les bagarres et les interpellations ne sont pas toujours claires et nettes.
C'est un mea culpa en bonne et due forme,
oui,
Frédéric Dabi.
Et Nathalie, ce n'est pas le premier. Si je compte bien, c'est le troisième. La boîte de nuit, on peut en parler au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Au moment de l'intrusion à l'hôpital de la Pitié, celle près de Trier, il avait un peu rapidement qualifié les faits d'invasion, je pense, d'un service d'urgence. C'est une forme de fragilisation, je pense, du ministre Castaner. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, il ne peut pas compter sur Laurent Nunez, dans la mesure où Laurent Nunez est très peu connu des Français. On n'est pas du tout sur le tandem Pasqua-Pandreau qu'on nous a vendu, où c'est vrai que l'un pouvait rééquilibrer l'autre et il se, si je puis dire, faisait du bien l'un l'autre dans le regard qu'on avait les Français. C'est quand même un ministre qui est très fortement fragilisé. C'est compliqué dans le contexte où il y a une question d'ordre et de sécurité qui inquiète les Français.
Ouais, mais ce secrétaire d'État, quand même, quand il corrige le lendemain, il a aussi il a un poids et pas négligeable, Michel Cotta. Oui, parce qu'il corrige le lendemain, comme Édouard Philippe qui est envoyé à Évry.
D'autant que lui, il est dans le métier.
Exactement.
Non, mais, à mon avis, tout le monde a senti immédiatement qu'il y avait une sorte de dérapage. Donc, Édouard Philippe est monté au créneau en remerciant les policiers, en disant « jamais je ne laisserai dire que… » etc. Et Laurent Nunez a fait la même chose. Et d'ailleurs, Manuel Valls, tout à l'heure, ex-premier flic de France, comme il dit, a dit la même chose. Ouais. Mais il faut dire qu'on ne peut pas non plus oublier le contexte. Je reconnais qu'il y a un amalgame absolument fou entre ce qui s'est passé en Amérique et ce qui se passe avec la fratrie Traoré, puisque c'est une fratrie. C'est vrai qu'il faut aussi tenir compte.
Alors
de
justement,
ça.
Écoutons ce que nous dit Mouna, c'est une auditrice, et Alain, je vous redonne la parole sur le duo Castaner-Nunez dans un petit instant. Bonsoir Mouna, vous nous appelez
Bonsoir.
De Paris, bienvenue.
Merci.
Comment vous observez-vous tout cela ?
Alors, comme j'étais particulièrement énervée par l'attitude de Castaner, qui, pendant les manifestations des Gilets jaunes, il semblait nier les violences policières qui étaient pourtant manifestes. Donc, je ne pouvais que saluer ensuite sa prise de position plus récente, parce qu'il existe clairement du racisme au sein de l'institution policière et des cas de violence. Après, je pense qu'il faut aller plus loin en créant un véritable contre-pouvoir, à savoir une autorité administrative indépendante, véritablement efficace, et surtout rendre plus lourdes les réponses pénales.
Ah oui, c'est une voie.
Donc c'est une contestation de l'IGPN, de l'Inspection générale de la police.
C'est une insuffisance.
Il faudrait quelqu'un. À votre avis, il faudrait une institution indépendante du gouvernement pour juger des cas de racisme dans la police quand il y en a.
Oui, c'est ça. Voilà.
Oui, c'est ça. C'est ce que dit Mouna,
extérieur à la police. Comme ça se passe en Grande-Bretagne, par exemple, où effectivement, il y a une institution extérieure à la police, avec des magistrats, avec d'anciens policiers également, mais qui ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur.
Voilà, c'est Mouna qui nous disait donc combien elle avait apprécié, merci à vous, ce changement de braquet de Christophe Castaner, passer de complaisant à
avant le mea culpa.
Voilà, parce que ça date d'il y a 5 minutes.
Vous voyez
donc,
c'est difficile.
Mais bien sûr,
c'est difficile. On est en train. Voilà, il faut tenir compte des deux pressions. Voilà, alors il y en a une qui est une pression de la République, en quelque sorte, parce que la police, ça fait partie de la République, c'est un instrument vital de la politique. Et l'autre qui fait partie, c'est un instrument, c'est un problème sociétal grave que la France connaît et connaîtra, à mon avis, dans les mois qui viennent.
Un mot, Alain Acco, parce que vous les connaissez bien pour travailler et être chef du service police-justice d'Europe 1. Nunez Castaner, aujourd'hui, c'est vrai que Nunez connaît très bien ses troupes. Il maîtrise très bien le terrain. On est dans une rupture du duo.
Une rupture, non, elle n'est pas affichée, mais elle est, on l'aperçoit très clairement quand Laurent Nunez est venu sur Europe 1 il y a quelques jours, un matin. Ce qui m'a énormément frappé, c'est alors qu'il avait toujours affiché, depuis qu'il est en poste, dans chaque interview, il citait Christophe Castaner, il citait le ministre de l'Intérieur, il se mettait sous le ministre de l'Intérieur, il affichait une loyauté sans faille. Là, il n'a pas affiché une déloyauté. Il n'a pas cité une seule fois le nom de Christophe Castaner. Il n'a pas cité une seule fois, ne serait-ce que la fonction de ministre de l'Intérieur. Il a parlé du ministère et il a dit « je » un nombre incalculable de fois en disant « je prendrai mes responsabilités ». J'ai la faiblesse de penser que je suis très aimé par les policiers et les gendarmes. Enfin, clairement,
On ne peut pas nier qu'il y a des problèmes de racisme dans un minimum, sans doute, ils sont tout à fait restreints. C'est pas l'ensemble de la police, mais on peut pas nier tout de même qu'il y ait des problèmes de racisme. La preuve, c'est qu'il y a eu plusieurs faits qui ont été justement soumis à l'IGPN. Donc, ça n'est pas condamner l'ensemble des policiers. Que donc condamner juste certains.
Mais voilà, et ça a été dit, rappelé, reprécisé de toute façon. On va reparler évidemment de Christophe Castaner et dans le remaniement aussi à venir avec vous, Frédéric Dabi, parce que c'est aussi une des questions. Typiquement, lui qui est à ce poste et qui est malmené, est-ce que ça peut faire partie? On parle de ce remaniement dans une petite seconde avec vous, les grandes voix, dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Et c'est votre grand journal jusqu'à 19h sur Europe 1 avec les grandes voix. Et cette question, évidemment, comment Emmanuel Macron va pouvoir se réinventer? Crise sanitaire, crise économique, Frédéric Dabi, municipal, ça sent évidemment très mauvais pour le dimanche 28 juin. La colère, là, de la police. Écoutez ce qu'en dit Alain Minc, il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Le remaniement, quand? Avant l'été? Après? Écoutons.
Qu'est-ce qu'il a? Il a la dissolution, il ne va pas la faire, on a des expériences passées. Le référendum, il ne va pas le faire, on a l'expérience passée. Grâce à Jacques Chirac, on sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire une dissolution ou un référendum. Donc, après, il reste le changement de gouvernement, c'est tout.
Voilà, la palette n'est le choix, il n'y a pas de choix en fait.
Je partage complètement ce qu'a dit Alain Minc. Déjà, il faut bien dire qu'on est tous passionnés par un probable ou futur vrai-faux remaniement. Les Français n'en parlent absolument pas. Ils sont polarisés sur l'inquiétude sanitaire et surtout sur les conséquences économiques de la crise. Et c'est vrai qu'un remaniement, dans le cadre d'un quinquennat, c'est un fusil qui a très très peu de coups. Il faut jouer l'effet de surprise. Et là, c'est vrai qu'on attend un remaniement. Est-ce qu'il est obligatoire? La défaite d'En Marche, elle est là depuis le 15 mars. Il y a peut-être Strasbourg qui va être sauvé encore. Et puis, il faut que les Français voient une cohérence à ce remaniement. Quel périmètre? Est-ce que c'est une inflexion de sa politique? Et puis, la question centrale, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron peut prendre le luxe de se débarrasser d'un Premier ministre ultra populaire qui connaît un véritable état de grâce et qui occupe pour lui un pan très important de l'échiquier politique?
Il y a évidemment la question des hommes, il y a la question du cap aussi, Michel Cotta, bien sûr.
Oui, mais c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire, changer de cap maintenant, au moment où on a attribué, à juste titre, des milliards aux chômeurs, aux entreprises, où on a fait voler le plafond de la dette de la part de gens qui n'étaient pas élus pour ça. Donc là-dessus, au fond, Philippe et Emmanuel Macron, ils sont ensemble dans l'esprit des gens. Ils sont ensemble, ils ne sont pas séparés. Alors, changer de cap, mais alors, que faire? Reprendre la réforme des retraites? Bon appétit, parce que reprendre la réforme des retraites 15 mois avant les élections, l'élection présidentielle civile. Donc, changer de cap, alors qu'il a déjà, quelque part changé de cap sur l'économie, sur l'ensemble. Il me semble que c'est déjà fait. Alors, se réinventer, c'est vrai que c'est tout le problème d'Emmanuel Macron, parce que on ne sait jamais exactement qui est Emmanuel Macron.
Bien sûr. Alors, se réinventer, il y en a un qui avait traîné un peu sur le dossier, se réinventer, qui avait créé la surprise, c'était Nicolas Sarkozy en 2010. Nicolas Sarkozy qui rencontre Emmanuel Macron, on l'a su pendant la crise, souvent, et puis qui a rencontré aussi la semaine dernière Édouard Philippe à Matignon.
C'est vrai que c'est une très bonne référence. Qu'est-ce qui se passe en 2010? Il y a 10 ans, en mai-juin, il y a des rumeurs de remaniement.
Du départ de Fillon,
Nicolas Sarkozy, clairement maître des horloges, maître du temps, se débarrasse entre guillemets de 3 ministres enquistés dans des affaires au mois de juin, ne fait plus rien jusqu'au mois d'octobre. Bon, il choisit finalement de garder François Fillon qui bat par KO Jean-Louis Borloo. Et bon, même s'il ne peut pas créer un nouveau cap, il se prépare à la fin de son quinquennat. Est-ce qu'Emmanuel Macron est pressé de remanier à court terme sous la pression des observateurs et crée une surprise, le précédent de 2010 peut être intéressant pour lui.
Voilà, c'est vrai, Michel Cotta.
On entend beaucoup dans la majorité, surtout chez quelques députés, dire attention, s'il ne fait pas ce remaniement en juillet ou avant la fin, avant la fin de l'été, alors ce sera comme Sarkozy avec Fillon, il le gardera. L'exemple Fillon-Sarkozy.
C'était Jean-Louis Borloo qui était dans la tête à l'époque de Nicolas Sarkozy.
Mais finalement, au fond, c'est dans la tête d'un certain nombre de gens de la majorité, mais on s'aperçoit bien que le groupe majoritaire est en morceaux. Donc il doit y avoir des avis divergents. Mais une partie du groupe majoritaire, c'est sûr, pousse Édouard Philippe à la sortie, mais quand quelqu'un a près de 70% d'opinion favorable, c'est difficile, il est difficile à pousser vers la sortie.
La question, c'est aussi parce qu'il y a cette majorité dont le sort est scellé, entre guillemets, à Paris, à Marseille, dans ces municipales là qui arrivent le 28 juin avec des marcheurs inexistants, à minima avalés par les Républicains, Michel Cotta, Frédéric Dabi. Ça, c'est quand même des signaux normalement.
Mais on savait qu'il n'y avait pas d'élus.
Il n'y a pas de surprise, bien sûr.
Il n'y avait pas de passé. Il n'y a pas de passé pour eux, pour La République En Marche. Donc c'était difficile, effectivement, de se faire élire pactiser, soit à gauche, soit à droite. Oui, mais on remarque qu'ils ont plutôt pacté vers la droite. Alors,
oui, ils ont noué des alliances avec seulement dans 13% des cas avec la gauche. On est loin du en même temps macronien. C'est vrai que l'élection municipale, l'élection de la stabilité, l'élection où on ne sort pas les sortants, est la pire élection pour un parti si jeune qui n'avait pas d'élus locaux. Maintenant, voilà, il reste d'autres élections qui seront également compliquées. Et puis, on a quand même, un déséquilibrage de la promesse macronienne qui clairement regarde vers la droite. Et qui est l'homme lige ou celui qui fait point de jonction avec tous ses passants de droite? Édouard Philippe, 75% de bonnes opinions chez les sympathisants LR.
Oui, on y revient toujours, décidément. Bon, merci beaucoup, les grandes voix du vendredi, Michel Cotta, Frédéric Dabi et Alain Accaud, chef du service police justice d'Europe 1, qui nous a également accompagnés. Merci à vous trois.
Europe 1.
Et dans un instant, dans votre grand journal du soir, c'est l'édition de 19h, Sébastien Krebs, avec le dispositif des manifestations de demain. On est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1. Et c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Et après 19h, vous le savez, on regarde vers demain avec d'abord ce rendez-vous à 19h20. Ça vous rappelle quelque chose, évidemment. C'est le bruit de la vitesse des moteurs. Et oui, c'est le retour. Pas sur le paddock, vous allez comprendre. Mais c'est quand même le retour de la mythique course des 24 heures du Mans. C'est demain, mais c'est en version virtuelle. Comment ? Je pose toutes les questions qui vont bien au pilote Romain Grosjean. Il est mon invité sur Europe 1, c'est dans 20 minutes. Et puis à 19h30, comme chaque vendredi soir, vous le savez, c'est votre grand journal du soir qui passe en mode week-end avec les bonnes idées, culture, balades et gastronomie de la rédaction, de nos invités aussi. Et puis les vôtres, et oui, on vous attend, racontez-nous. On vous attend au 3921, hashtag Europe 1. Avant cela, c'est votre grand journal de 19h avec Sébastien Krebs. Il est 19h.
La question, c'est qu'est-ce qu'on va employer dans les jours à venir avant qu'on mette en place d'autres techniques. Donc il va nous écrire ce soir, il va rapidement trancher, mais il nous a assuré qu'il n'y aurait pas de zone grise.
Christophe Castaner va écrire aux policiers ce soir pour tenter d'apaiser le climat. Le ministre de l'Intérieur reconnaît ses torts, estime le syndicat des commissaires.
Demain, différents rassemblements organisés à nouveau contre les violences policières qui font craindre des débordements.
Faut-il s'inquiéter de ces nombreuses manifestations organisées? Risquent-elles de relancer l'épidémie? Élément de réponse dans quelques secondes.
Les indicateurs de l'épidémie au vert, mais l'inquiétude en Guyane précisément. Les élus locaux craignent de devoir reconfiner.
Dans ce journal aussi, la candidate LR à Marseille épinglée pour des pratiques frauduleuses.
Demain en France, la livraison à domicile version haut de gamme.
Et demain dans le monde, les géants du numérique ne veulent plus que la police utilise leur technique de reconnaissance faciale. Enfin, on sera en Italie, c'est la reprise du championnat de foot ce soir.
Et du côté du ciel, Valérie Darmon pour un éclairage sur ce week-end.
Et oui, alors attention, sous les orages, des désormais 9 départements seulement en alerte orange orage et plus 16, Massif central et Cévennes, Moselle et Meurthe-et-Moselle. Ces fortes pluies qui vont faiblir dans les nuits, mais le week-end qui reste instable.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Des manifestations dans plusieurs villes de France. Demain, nouveau rassemblement organisé contre le racisme et les violences policières, en particulier à l'appel du comité de soutien à Adama Traoré à Paris. On se souvient qu'il avait déjà réuni 20 000 personnes la semaine dernière près du palais de justice. Et ce nouveau rassemblement fait craindre des débordements. Chloé Triomphe.
En tout cas, c'est ce que redoute la préfecture de police de Paris, qui a pris une série de mesures qui rappellent certains samedis de manifestations de gilets jaunes, avec les commerces, débits de boissons et restaurants qui seront fermés demain après-midi sur le parcours du cortège entre République et Opéra, avec également le mobilier urbain qui pourrait servir de projectile qui sera enlevé. Contrairement à samedi dernier où les manifestations étaient statiques et circonscrites à une place de la Concorde hyper sécurisée ou au Champ de Mars, c'est une manifestation mobile qui est prévue demain, plus plus à risque, avec un nombre de personnes attendues entre 10 et 20 000. Samedi dernier, finalement, malgré les mêmes estimations, le rassemblement avait attiré environ 5 000 personnes, selon le ministère. Mais pour demain, davantage d'appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux, à l'appel du comité justice pour Adama, mais aussi de la part d'organisations comme la Ligue des droits de l'homme. Et surtout, les autorités redoutent la convergence de radicaux violents issus d'horizons différents, aussi bien de l'ultra-gauche que des gilets jaunes ou encore des jeunes issus des quartiers sensibles.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1 et à Nantes, hein, par crainte là aussi d'incident, la manifestation a été interdite. D'autres rassemblements sont prévus à Marseille, à Lyon ou encore à Montpellier.
Et des manifestations qui posent question à l'heure où l'état d'urgence sanitaire interdit toujours, sur le papier, de se réunir à plus de 10 personnes.
Hein. Liberté de manifester d'un côté, mais santé publique de l'autre. On ne voit pas toujours de masque hein, sur le visage des manifestants. Font-ils courir le risque de relancer l'épidémie? Écoutez la réponse de l'épidémiologiste Anne-Claude Crémieux.
On sait que le fait d'être dans un milieu fermé augmente beaucoup le risque. Le fait d'être dans un milieu ouvert sera évidemment beaucoup moins risqué. Et milieu ouvert plus distance sociale et masque permettent de réduire considérablement le risque de transmission du virus d'une personne à l'autre. Bon, on a aussi l'exemple de manifestations dans d'autres pays et pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour penser qu'il y a eu des clusters. Bien sûr, il faut être prudent. Bien sûr, il faut que les gens tiennent les mesures barrières le plus possible, distance et les masques. L'association des deux protège quand même très bien.
Mais si les gens ne font pas attention, là, il y a des risques.
Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont encore assez vigilants. Donc, il faut aussi faire confiance à la responsabilité des manifestants.
L'épidémiologiste Anne-Claude Crémieux avec Ève Roger.
Et aujourd'hui, ce sont les policiers qui manifestaient avec une image très symbolique, hein, les sirènes sur les Champs-Élysées. Plusieurs centaines d'agents rassemblés également place Beauvau.
Ils demandent à être reçus à l'Élysée et beaucoup parlent de crise de confiance avec leur ministre, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui va écrire aux policiers ce soir à l'issue de ces différents rendez-vous avec les syndicats. David Lebars du syndicat des commissaires est ressorti il y a quelques minutes, finalement plutôt satisfait.
Le ministre est très clair, sur le soupçon avéré, on tourne une page, c'est un propos maladroit, il le reconnaît, il l'a déjà dit dans les médias, il nous l'a redit. Évidemment que c'est pas le soupçon qui condamne le policier, c'est la faute. Donc là-dessus, premier point balayé. Le deuxième point, on lui a fait savoir qu'il n'est pas question de se retrouver dans une zone grise avec des techniques d'interpellation qui ne sont plus possibles parce qu'elles ont été interdites. Donc il est conscient de ce problème. Alors, que ça s'appelle une prise arrière ou pas, la question c'est qu'est-ce qu'on va employer dans les jours à venir avant qu'on mette en place d'autres techniques. On ne peut pas attendre les réflexions d'un groupe de travail. Donc il va nous écrire ce soir, il va rapidement trancher, mais il nous a assuré qu'il n'y aurait pas de zone grise et donc on ne laisserait pas les policiers sans la capacité de procéder à leur métier, à leur cœur de métier, à savoir interpeller les récalcitrants.
David Lebars du syndicat des commissaires de police.
Et Emmanuel Macron qui s'exprimera dimanche soir hein, à 20h, ce sera aussi sur Europe 1 avec peut-être un message justement pour les policiers, mais en tout cas surtout des annonces très attendues sur le déconfinement.
Oui, rien n'a filtré hein, pour l'instant des différentes réunions du jour, conseil scientifique et conseil de défense qui portaient notamment sur les restaurants, sur l'école, sur les élections municipales. Mais si les indicateurs sont plutôt verts en métropole, l'inquiétude grandit en Guyane où le nombre de cas a été multiplié par 6 en un mois. Certains élus craignent de devoir reconfiner ce département qui manque de soignants. Les hôpitaux sont débordés. Écoutez le préfet de Guyane, Marc Del Grande.
Nous voyons les cas qui augmentent très sensiblement depuis la frontière brésilienne. Nous avons eu les premiers clusters. L'épidémie a débordé sur Cayenne et Kourou. J'ai été amené à prendre des mesures de couvre-feu. En semaine, couvre-feu de 21h à 5h du matin et le week-end du samedi 21h au lundi 5h du matin. Et là, dès que nous avons un cluster, on le confine. On a un quartier de Rémire-Montjoly, le quartier arc-en-ciel, qui est confiné depuis désormais une semaine.
Avec propos recueillis par Simon Rubin, le préfet de Guyane.
Et le conseil scientifique qui a justement alerté sur le risque d'organiser là-bas le second tour des municipales le dimanche 28 juin, comme en métropole.
La campagne des municipales, justement, qui s'agite à Marseille avec une affaire de soupçon de fraude qui éclabousse l'équipe de la candidate LR Martine Vassal. Deux de ses colistières proposeraient à des électeurs de signer des procurations sans passer par un officier de police, qui est pourtant obligatoire. L'affaire a été dévoilée par nos confrères de France 2 et du journal Marianne, et elle n'est pas démentie par la candidate que vous avez rencontrée aujourd'hui, Nathalie Chevance.
Effectivement, Martine Vassal a publié un bref communiqué, fait inacceptable. Elle demande d'ailleurs à ceux qui auraient pu y contribuer de se mettre en retrait de la campagne. Voilà pour la version papier. Mais sur le terrain, la candidate LR apparaît très agacée.
Vous savez quoi, les journalistes parisiens ? C'est pas eux qui vont faire l'élection à Marseille. Des Parisiens essayent de créer une polémique qui n'existe pas ici. Moi, je ne rentre pas là-dessus.
Tempête dans un verre d'eau, enchaîne Yves Morenne, colistier de Martine Vassal, qui explique que les deux candidates fautives ont été rappelées à l'ordre.
Il faut quand même pas exagérer, c'est une maladresse fautive par méconnaissance. Les deux candidates qui ont commis une erreur, pour l'instant elles sont en retrait de la campagne, en tout cas elles ne s'occupent pas des procurations.
Mais à gauche, dans le camp du printemps marseillais, on dénonce, je cite, un trafic industriel de procurations. Même son de cloche au Rassemblement national par la voix du candidat Stéphane Ravier.
L'équipe Vassal se livre à une campagne de voyous. Et là, aujourd'hui, dans la permanence de Martine Vassal, des responsables de sa campagne enregistrent des procurations dites simplifiées sans la présence d'un officier de police judiciaire. On se permet tout et n'importe quoi. Je crois que finalement c'est bon signe, elle est aux abois.
Le RN qui envisage de porter plainte. Quant au printemps marseillais, il en appelle au préfet pour garantir la sincérité du scrutin au deuxième tour. Chaque voix comptera.
Nathalie Chevance en ligne de Marseille pour Europe 1. De très fortes pluies ces dernières heures dans le sud, dans les Cévennes, le Gard, la Lozère, avec des dégâts, des routes qui se sont effondrées, des véhicules emportés par les eaux. Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit. Des dégâts notamment sur la commune de Saint-André de Magencoux. Les 2000 personnes qui ont été privées d'électricité dans ce département du Gard.
Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Et à suivre dans un instant, on se projette sur demain. Demain en France, la livraison à domicile, mais version haut de gamme.
Et demain dans le monde, les géants du numérique qui ne veulent plus fournir à la police leur logiciel de reconnaissance faciale.
C'est la suite de votre journal avec, après 19h, on se tourne vers l'actu de demain sur Europe 1. Demain en France, pour commencer avec vous Jean-Pierre Montanet, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
La livraison à domicile a explosé pendant le confinement, ça ne nous a pas échappé. Et ça a séduit de nouvelles clientèles carrément plus exigeantes sur le service, hein.
Oui, parce que réceptionner sa 4 fromages en vrac ballottée par un scooter, par un livreur qui a oublié et l'adresse et la sauce piquante, ça va encore lorsqu'on a 20 ans et une faim de loup qui anesthésie tout sens critique. Mais Nathalie, à 65 ans, lorsqu'on a l'habitude des belles boutiques, des grandes tables, ça passe plus mal. D'ailleurs, les applis Uber Eats, Deliveroo, qui pratiquent la livraison à la chaîne, n'ont pas cartonné pendant le confinement, alors que ce secteur a connu son heure de gloire. Pourquoi ? Eh bien parce que les nouveaux clients venus à la livraison par la force des choses, plus âgés, vulnérables, davantage à cheval sur les principes et la qualité, se sont tournés vers des sociétés plus haut de gamme.
Alors des sociétés haut de gamme, qui sont ces nouveaux acteurs de la livraison à domicile ?
Cogepar, par exemple, Sébastien, présent dans 67 villes, ses livraisons sur l'alimentaire ont bondi de 40% pendant le Restez chez vous, m'a confié Jérôme Dor, son fondateur. Le secret, une brigade de 2000 livreurs impeccables dans leur uniforme bleu, rompu au standard de l'hôtellerie 5 étoiles après un stage de 2 jours, pour assurer un service de proximité sur mesure. À Nice, Livreur Chic, start-up montée par 3 copains, fait fureur. Les bonnes tables niçoises l'ont adopté. Les livreurs s'engagent à apporter autant de soins à la livraison que les chefs à la confection des assiettes. Promesse lue sur le site, les plats arrivent encore chauds chez vous, à vérifier. Avec son service premium, Top Chrono est devenu le partenaire attitré des enseignes de luxe comme LVMH, capable de livrer aussi bien de l'électronique chère que des denrées alimentaires fragiles. Alors, jusqu'où peut aller cette livraison en mode palace ? À partir d'un certain prix, ça va coincer, prédit un expert. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu un joaillier livrer une bague à 10 000 euros en scooter.
Oui, puis c'est pas très prudent, remarquez.
Cela dit, c'est pas mal pendant que les terrasses des restaurants, elles, sont sous la pluie.
Sous la pluie, exactement, ça aussi, on va y revenir. Merci beaucoup, hein, Jean-Pierre Montanet. Merci à vous, à lundi.
Il y aura un procès pour la catastrophe de Brétigny, ce train qui avait déraillé en 2013. La SNCF et un cheminot sont renvoyés en correctionnel, annonce ce soir le parquet d'Evry. Demain dans le monde à présent, bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Vous nous emmenez dans la Silicon Valley aux États-Unis où la mort de George Floyd a déclenché une série de réactions plutôt inattendues de la part des géants du numérique qui ont décidé de suspendre la fourniture de leur logiciel de reconnaissance faciale aux forces de police.
Oui, bah c'est IBM qui a déclenché le mouvement au tout début de la semaine, suivi par Amazon et aujourd'hui par le PDG de Microsoft.
Nous avons décidé de ne plus vendre nos logiciels de reconnaissance faciale à la police des États-Unis tant que ne sera pas adoptée une loi de protection des droits de l'homme pour encadrer cette technologie.
Voilà, donc vous l'avez compris, pour les géants du GAFA, l'enjeu c'est d'obtenir un cadre légal qui légitime l'utilisation de leur technologie et qui en fixe les règles. règles d'emploi, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
Est-ce qu'il les met mal à l'aise, qu'il les place dans une situation délicate, Didier ?
Oui, d'autant que leurs logiciels sont extrêmement puissants, mais ils ne sont pas exempts de défauts. Ils ont par exemple beaucoup de mal à identifier les femmes noires, avec un taux d'erreur 10 fois plus important que pour les hommes blancs. Au point que, lors d'un test, ils n'ont pas été capables de reconnaître des personnalités aussi célèbres que Michelle Obama ou que Serena Williams. Donc voilà, c'est un peu étonnant. Mais IBM, Amazon et Microsoft ont également admis que leur programme pouvait effectivement poser un problème de profilage sur des critères d'apparence physique, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans un cadre de surveillance de masse. Or, c'est bien ce qui s'est passé lors des manifestations en réaction à la mort de George Floyd, puisque plusieurs agences fédérales ont été autorisées par la Maison-Blanche à brancher leur programme sur les caméras qui filmaient les rassemblements, même les rassemblements pacifiques. Et donc, cela place potentiellement les entreprises face à deux risques, un risque de réputation et un risque judiciaire. Dans les deux cas, un énorme risque financier. C'est partiellement ce qui explique ce soudain regain moral.
Il y a toujours quelque chose derrière. Merci Didier François et bon week-end.
Mais inévitable dans ce climat de grande défiance. Merci beaucoup à vous deux, Didier François, Sébastien Krebs. Vous revenez évidemment dans 15 minutes sur Europe 1. C'est la météo avec vous, Valérie Darmon. Alors, il y a l'étape orage, c'est en cours. Et le week-end, il se dessine comment ?
Ben, pas terrible encore malheureusement, hein. Toujours avec ce samedi de la Basse-Normandie à la Bretagne en descendant vers les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes jusqu'à la Gironde, des averses orageuses qui vont démarrer dès demain matin et l'après-midi toucher le Limousin et la partie ouest du centre-Val de Loire. Sur le Languedoc et sur PACA en allant vers l'Auvergne, vers Rhône-Alpes, jusqu'en Lorraine, l'instabilité de la nuit va donner encore des ondées accompagnées localement de coups de tonnerre, mais c'est beaucoup plus calme qu'aujourd'hui bien évidemment. Et en Méditerranée, le temps est de nouveau très orageux jusqu'en Corse, sur le Var et sur les Alpes-Maritimes. Jusqu'à demain soir. Et donc, de gros cumuls de pluie sont encore attendus. Là où ce sera le plus ensoleillé, c'est tout de même sur la région parisienne, les Hauts-de-France et puis le Limousin.
Europe 1. Et dans votre grand journal du soir, jusqu'à 20h, on est ensemble et on regarde vers demain. Parce que demain, feu vert pour le grand retour de la course mythique des 24 heures du Mans. Oui, mais attention, hein, en version virtuelle. Comment ça se passe ? Expliquons tout cela et posons d'abord les questions qui vont bien au pilote Romain Grandjean, invité exceptionnel d'Europe 1. C'est dans une seconde. Et vous êtes sur Europe 1 jusqu'à 20h en direct. Et comme chaque soir à 19h20, bah c'est déjà demain sur Europe 1. Demain, c'est d'ailleurs le grand retour des 24 heures du Mans, course mythique. Mais cette année, crise sanitaire oblige. Et bien, c'est une version virtuelle qui nous est livrée. Avec nous pour en parler ce soir à mon micro, le pilote Romain Grandjean. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 à la veille de ce grand rendez-vous parce que vous préparez là activement les 24 heures du Mans qui seront lancées demain, samedi, à 15h. En version virtuelle, en revanche. Alors, expliquez-nous les courses automobiles en ligne. De quoi s'agit-il ?
C'est des courses automobiles comme on fait en vrai, mais en virtuel. Ça existe depuis pas mal de temps, mais je dirais qu'avec le confinement, les choses se sont accélérées. Et donc, c'est une première vraiment d'avoir un événement officiel qui va se dérouler en ligne. Donc, c'est tout comme dans la réalité. On peut choisir sa voiture, on fait des réglages sur les voitures. Ensuite, on va avoir de l'usure de pneus, de la consommation d'essence, de la météo qui va changer, des dégâts si on a des accidents qu'on peut réparer aux arrêts au stand et de la stratégie qui va rentrer en jeu. Donc ça va être très très intéressant à suivre et je sais que toutes les équipes se sont préparées à fond pour cet événement.
Alors en effet, dans cette version numérique, vous avez 4 pilotes engagés, 2 professionnels, 2 simplistes. Comment se sont déroulées les sélections ?
Alors la règle voulait qu'on ait 2 pilotes qui disposent d'une licence de pilote automobile, qu'ils soient des pilotes réels, enfin du réel je dirais, et puis on avait le droit d'avoir 2 professionnels du sim racing. Et donc toutes les équipes qui veulent jouer la gang ont joué là-dessus, ont pris 2 sim racers parce qu'ils ont l'expérience, ils connaissent bien les jeux, ils connaissent bien les réglages, ils connaissent bien les voitures. Et puis après j'ai pu les choisir mon meilleur ami Mathias Bech, qui a fini sur le podium des 24 heures du Mans à LMP2 il y a quelques années, et Daniel Zuncadella, qui est aussi un pilote qui j'ai roulé à l'époque en Formule 3 et qui est très très fort en simulateur. Donc je pense qu'on a...
Donc il n'y a pas eu de sélection à proprement parler là, dans la phase en amont, il n'y a pas eu de sélection, Romain Grandjean ?
Non, il n'y a pas eu de sélection, voilà. Comme j'ai la chance d'avoir pas mal de pilotes sous contrat dans l'équipe, j'ai pu aller choisir qui je voulais.
Bien sûr. Alors en revanche, ils se sont entraînés, et comment ?
Ils se sont entraînés comme ça va être samedi dimanche sur des serveurs qu'on ouvre et puis on a des températures de piste qui vont évoluer, des météos qui vont évoluer et donc ils ont roulé, ça fait maintenant 2 semaines ou 3 semaines même qu'ils roulent beaucoup qui travaillent sur la voiture. Il y a eu aussi quelques courses tests effectuées par l'organisateur pour être sûr que le 13 et le 14 juin, tout se passe à merveille. Donc voilà comment on a roulé, on a évolué. Je sais que les réglages sont en train d'être finalisés.
Alors effectivement, quand vous nous parlez de tout cela, on a l'impression d'y être. On est vraiment dans une simulation avec des réglages, etc. Est-ce que vous avez pu néanmoins recréer les caractéristiques propres de votre voiture et d'ailleurs de chaque véhicule en si peu de temps hein, parce qu'on est avec plus de 50 véhicules présents hein.
Effectivement, il y a 50 véhicules présents. Alors il y a une grosse catégorie de prototypes qui sont les MP2 et ensuite il y a les GT, nous on court en GT, donc ouais. On avait le choix entre quatre voitures, la Ferrari, la Porsche, l'Aston Martin et la Corvette. On a choisi la Corvette puisque c'est celle qui nous semblait être la plus compétitive. Et ensuite, on a vraiment travaillé sur les réglages comme on travaille en vrai. Et même pour vous dire, on a amené des ingénieurs de la course automobile qui sont venus nous aider à analyser les données, les télémétries, ouais. Tout ce qui est enregistré et tout ce que le pilote fait pour essayer de trouver les meilleurs réglages.
Ouais. Alors évidemment, il y a un enjeu, voire des enjeux. Que remportera le vainqueur Romain Grosjean ?
Honnêtement, bah avoir gagné les premières 24 heures du Mans virtuel, je pense que ça va être un événement qui peut marquer un tournant dans le e-sport, le sim racing, et peut-être même plus grand. Donc, on va suivre ça avec énormément d'attention. C'est que voilà, l'équipe se prépare à merveille. Et on va tout faire pour essayer d'aller remporter la course.
Oui, c'est ça. C'est votre objectif, enfin un de vos objectifs en tout cas. Peut-être les courses virtuelles sont un autre aspect de l'avenir des courses automobiles.
Je ne sais pas si c'est l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui un engouement et une certaine curiosité sur les courses en ligne. On peut aussi essayer de trouver les talents du futur via du sim racing, parce que finalement ça coûte beaucoup moins cher de se lancer dans le jeu vidéo qu'en karting ou en monoplace où le budget explose. On va travailler là-dessus et puis c'est sympa aussi de pouvoir se dire voilà, bah aujourd'hui j'ai fait une course et j'étais contre Romain Grosjean ou Max Verstappen ou Lando Norris, tu parles de ceux qui roulent beaucoup.
Alors vous nous parlez du vainqueur et l'objectif effectivement, l'enjeu étant de gagner cette première course virtuelle, mais quand même, parce qu'il va y avoir une retransmission télévisée, est-ce que vous êtes fixé un objectif d'audience? Est-ce que vous espérez effectivement qu'il y ait une adhésion très forte du public et dans ce cas un petit chiffre?
Non, mais on va voir comment les gens réagissent. C'est tout nouveau. Je pense qu'il y a vraiment un effort qui est fait pour aider la compréhension. Jusqu'à aujourd'hui, les courses de sim racing c'était beaucoup sur Twitch, sur quelques chaînes spécialisées sur Internet. Mais là, on parle de France Télé, de Eurosport, d'énormément de chaînes à travers le monde. Donc, on va voir vraiment ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être sympa.
Ouais. Tony Parker, c'est lui qui lancera la course en appelant les pilotes à démarrer leur moteur. Il agitera ensuite le drapeau français pour donner le départ de l'épreuve. Le sport en ligne, c'est aussi une manière de mélanger les univers sportifs.
Effectivement, c'est une manière de mélanger les univers sportifs. C'est que Tony est assez impliqué. On a fait il organise une fois par mois une course entre copains. Donc on en a déjà fait une où il avait invité Antoine Griezmann, Gaël Monfils, Charles Leclerc, moi. Pas mal de joueurs de basket aussi, et donc on rigole bien, et je sais que Tony regarde ça d'un œil intéressé, et c'est super de voir que voilà, une telle star vient donner le départ de la course.
Est-ce qu'on peut dire, Romain Grosjean, que le sport en ligne est plus inclusif, plus démocratique?
Il est différent, il est accessible à tout le monde, et ça vraiment c'est quelque chose de bien pour notre sport. Après c'est finalement assez différent de la réalité. Sinon, tous les pilotes de Formule 1 qui roulent sur un simulateur sont extrêmement rapides. Et pour rouler avec les pros de l'équipe, je sais que voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des choses à comprendre. Mais c'est un challenge aussi et c'est intéressant de travailler les réactions, la concentration et d'essayer d'aller vite sur quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour nous.
Ouais. Vous nous avez dit d'un mot les caractéristiques de votre voiture, elles sont là, bel et bien semblables à la réalité. Il n'empêche le crissement de pneus, le paddock avec l'odeur de la gomme, ça vous manque?
Oui, ça me manque beaucoup. En sim racing, la chose la plus bizarre, c'est que la course se termine, vous appuyez sur le bouton échappe de votre ordinateur et c'est terminé.
Ouais, c'est ça. Et le public n'est pas là.
Alors si on gagne, on ouvrira tous une bouteille de champagne à la maison. mais c'est vrai qu'il montrera un peu
l'absence du public.
Et oui, l'absence du public, effectivement,
qui va être aussi bizarre, mais on a la chance de pouvoir faire des chats et des choses comme ça en ligne pour essayer de combler un petit peu.
Mmh. Bon, bah écoutez, la pression monte. Évidemment, on sera en rendez-vous samedi à 15h. C'est 24 heures du Mans virtuel. Merci beaucoup, Romain Grosjean, de nous avoir raconté les préparatifs et rendez-vous évidemment pour vous suivre. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
Restez avec nous en direct sur Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Et à 19h30, vous le savez, comme chaque vendredi, votre grand journal du soir passe en mode week-end. Des idées culture, des balades, des recettes, c'est avec toute la rédaction d'Europe 1 mobilisée. Et puis vous, bien sûr, on vous attend au 3921, hashtag Europe 1. Et on est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1, l'heure de votre rappel des titres à 19h30 avec vous Sébastien Krebs.
La SNCF devra se défendre au tribunal, elle est renvoyée en correctionnel pour homicide et blessures involontaires pour la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, c'était en 2013. Ce déraillement qui avait fait 7 morts et des dizaines de blessés, un cheminot qui était en charge de l'inspection des voies sera lui aussi jugé. La crainte de débordement, extrême prudence des autorités avant des manifestations organisées demain contre le racisme et les violences policières. À Paris, les commerces devront fermer. À Nantes, le rassemblement est interdit par le préfet. Le ministre de l'Intérieur doit protéger les policiers et les gendarmes, estime sur Europe 1. Ce soir, Manuel Valls, qui exerça cette fonction dans le passé. Ce soir, Christophe Castaner va écrire aux agents. Il reconnaît une maladresse sur l'expression « soupçon avéré de racisme ». Il faudra attendre dimanche pour en savoir plus sur le déconfinement. Les annonces d'Emmanuel Macron à 20h sur Europe 1. Après un conseil de défense qui a eu lieu aujourd'hui. Le championnat italien de football reprend ce soir. Match symbolique à huis clos entre les clubs de deux villes parmi les plus touchés, la Juventus Turin face au Milan AC. Et en Angleterre, eh bien, ce sera la semaine prochaine et tous les joueurs porteront dans le dos de leur maillot le slogan Black Lives Matter, le mot d'ordre du mouvement antiraciste aux États-Unis.
Merci beaucoup Sébastien, l'info revient avec vous évidemment lundi à 18h, très bon week-end. Du côté du temps, alors Valérie Darmon, quel programme demain dans le ciel?
Pas terrible, hein. Malheureusement on a la dépression Nadine, c'est elle la responsable des intempéries de ces derniers jours qui se situe encore au large de la Bretagne, moins active mais là quand même. Elle apporte encore un temps instable dans le nord-ouest avec des averses parfois orageuses et en même temps on a une seconde dépression en place sur le golfe du Lion qui fait remonter de l'air humide et instable sur un gros quart sud-est apportant de fréquentes averses orageuses l'après-midi quasi partout, sauf peut-être, c'est là que vous êtes privilégié, entre Lille, Paris, Limoges et le midi toulousain. Actuellement, je vous le rappelle, il y a 9 départements en alerte orange, pluie, inondations et forts orages, du Puy-de-Dôme à l'Aveyron et à l'Hérault, et à l'opposé en Moselle.
Europe 1.
Et jusqu'à 20h, on est ensemble et on est passé là, ça y est, en mode week-end, votre grand journal du soir, avec des idées de balades, des confinés, des sorties culturelles, des bonnes recettes, finalement tout. Tout pour passer sereinement le week-end. À commencer par vous, Benjamin Peter. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, on enfile nos chaussures de randonnée. C'est parti. Vous nous emmenez en forêt dans le Tarn, au pied de la Montagne Noire.
Et oui, on va s'offrir un grand bol d'air dans un endroit que j'adore, je vous le confesse. C'est à quelques minutes à peine de Castres, dans un massif qu'on appelle le Cidobre. 5000 hectares de forêt et surtout de rochers. C'est ce qui fait en fait l'originalité de ce site, parce que le Cidobre, c'est un massif granitique. Et partout, vous allez croiser des masses monumentales, des boules de granit entassées les unes sur les autres et sur lesquelles on reconnaît parfois un poisson, le chapeau de Napoléon, la forme d'un oiseau. L'un des rochers emblématiques sur le sentier qu'on appelle le sentier des merveilles ici s'appelle d'ailleurs le roc de l'Oie. Mais le symbole de cet endroit, c'est la Peiro Clavado, un rocher de 780 tonnes qui tient en équilibre sur un petit socle naturel d'1 mètre carré seulement. C'est très étonnant, fascinant même. Et c'est là que j'ai croisé Thérèse et son mari qui s'offraient une petite excursion.
C'est magnifique parce que personne ne l'a fait. Il n'y a pas la main de l'homme et c'est mystérieux. D'ailleurs, on se demande comment ça a résisté, cette pierre-là clavée, c'est-à-dire clouée en fait. Hein. Peiro Clavado, c'est pierre clouée. Et puis les autres aussi, ce roc de l'Oie, elle attend qu'à être gavée, c'est toi. Seulement, on ne la gavera jamais, tant mieux. C'est un endroit, moi, c'est un endroit qui me plaît.
Mais avec cet accent qui chante. Et on imagine que ces blocs monumentaux ont fait l'objet de légendes au fil des siècles, hein, Benjamin.
Ben oui, évidemment, tout ça, ça a nourri l'imaginaire. Un éléphant qui se serait changé en pierre, la main du diable qui aurait façonné une rivière de rochers. Au sommet de la Peyrot-Clabado, vous allez trouver par exemple plein de petits cailloux, parce qu'on raconte que toute pierre jetée là-haut, et surtout qui y reste, garantit au lanceur un mariage dans l'année. Et tout ça, c'est des histoires qui se racontent et qui font rêver les enfants quand vous vous promenez avec eux.
Ah bah c'est pas négligeable, remarquez. Du coup, les sentiers ont un peu été pris d'assaut dès la fin du confinement.
Eh bien oui, parce que comme je vous le disais, on est juste à côté de Castres, pas très loin d'Albi, et à 70 km à peine de Toulouse, à vol d'oiseau. Et à la Maison du Cidobre, Florence Artero a constaté une fréquentation digne du milieu de l'été dès le premier week-end de déconfinement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vu l'étendue du site, il y a très peu de risques de se croiser.
Comme le site est quand même grand et les rochers sont disséminés sur tout ce territoire. Donc on va pouvoir se balader d'un côté de l'autre sans vraiment se rencontrer tous au même endroit. On coche toutes les cases, il n'y a pas la cohue de la mer. On est en moyenne montagne, donc on a la fraîcheur qui est agréable l'été. Et ça grimpe pas, en plus c'est facile d'accès et on peut faire tout ça en famille.
Voilà, alors vous pouvez aller les voir directement, mais ce que je vous conseille finalement c'est d'aller sur leur site. Vous pouvez télécharger toutes les randonnées directement sur votre téléphone pour savoir un peu où aller justement. Et puis le Cidobre, c'est aussi un massif qui est en partie exploité pour son granit. C'est d'ailleurs le plus grand producteur de granit de France, avec de nombreuses carrières en activité, des ateliers de transformation dont beaucoup se visitent. Et c'est donc l'autre option pour les jours où il fait pas beau.
Ouais, en tout cas il y a quand même beaucoup d'avantages, on l'a entendu avec vous, avec votre invité également, votre témoin. Merci beaucoup Benjamin Peter. Très bon week-end avec les chaussures qui vont bien pour la randonnée. on enchaîne avec Angèle. Bonsoir Angèle.
Bonsoir.
Le tour de toutes les sorties musicales de cette semaine, c'est avec vous qu'on fait ça, parce que vous allez commencer par de la musique classique.
Ah tiens. Oui, tiens, faisons ça. Nathalie Dessé, Alexandre Tarot, Gauthier Capuçon, Bertrand Chamaillou, une vingtaine d'artistes se sont retrouvés pour réaliser un album solidaire appelé Symphonie pour la vie, dont tous les bénéfices seront reversés aux hôpitaux de Paris. Alors il y a du Debussy, du Bach, du Gabriel Fauré. Et cet album, c'est 23 titres de grands standards de la musique classique. Alors, il sort aujourd'hui en physique et il a été enregistré en plein confinement. Le pianiste Bertrand Chamaillou raconte comment il a fallu mêler musique en studio et gestes barrières.
Tout le monde avait des masques, on avait du gel hydroalcoolique partout. Et il y a eu des parois, des sortes de plexiglas qui étaient installées entre nous. C'était pas toujours évident pour faire de la musique ensemble parce que on est habitué à se sentir, à être proche, à communiquer aussi, à faire sentir presque les vibrations de l'autre. C'était très joli parce qu'on était très loin les uns des autres et on essayait, c'est comme si on essayait de se rapprocher à tout prix, quoi. Voilà, par la musique.
Mais alors, ce que je vous propose, Nathalie, c'est de passer au groove maintenant.
Oui, sans transition.
Sans transition. Ces noms de groupe Surface ne vous parlent peut-être pas trop. Leur premier succès, c'est une chanson qui s'appelle Sunday Best, 400 millions d'écoutes. Mais le groupe américain a publié cette nuit, sans trop prévenir, un duo avec un géant de la musique, Elton John. Elton John, donc.
Adoubé par Elton John, le maître.
Et oui, donc ça c'est le groupe Surface et le titre s'appelle Learn to Fly. Ah.
Et puis cette semaine, Angèle signe le retour d'une artiste connue aussi bien du grand écran que chez les disquaires.
Oui, c'est la chanteuse Soko que vous avez pu voir dans Augustine d'Alice Winocourt ou À l'origine de Xavier Giannoli. Mais Soko, c'est aussi la musique. Trois albums dont Feel Feelings qui sort aujourd'hui, du rock lancinant et angélique. Ce nouvel album de Soko n'est pour l'instant disponible que dans les bacs et l'artiste refuse d'en faire la promotion. Elle habite depuis plus de 10 ans aux États-Unis et parler d'elle lui paraît dérisoire face aux manifestations depuis la mort de George Floyd. Alors depuis plusieurs semaines, elle préfère partager des chansons d'artistes noirs qu'elle affectionne, comme les Nigérianes Lijadu Sisters et Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again.
fatiguée.
Bah oui, c'est vrai que c'est vraiment Soko, c'est l'artiste à fleur de peau par excellence. Hein. Donc très cohérent tout cela. Merci beaucoup, Angèle Châtelier. Bon week-end à vous. Allez, d'autres idées, d'autres recettes, d'autres bons plans week-end. C'est dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Diane Chénouda est prête. On se retrouve dans un instant. Et c'est la suite de votre grand journal du soir. Culture gastro, balade déconfinée. Ça se passe sur Europe 1. Hashtag Europe 1 et au 3921 aussi avec vous. N'est-ce pas, Diane Chénouda?
Oui, bonsoir Nathalie.
Oui,
bonsoir.
Allez, on y est là. Quelques encablures du week-end. J'ai une idée de sortie en plein air.
Écoutez, moi, je vous emmène à Giverny, tout simplement.
Bah oui, une valeur sûre.
Voilà, absolument. C'est un petit paradis à une heure de Paris, le pays des impressionnistes, évidemment. À commencer par Claude Monet, dont on peut visiter, tout le monde le sait, la maison avec l'atelier du peintre et puis sa grande cuisine aussi, car Monet adorait manger. Et puis il y a les jardins, ces célèbres jardins. On peut s'y promener, traverser le fameux petit pont japonais que Monet a peint tant de fois. Ce pont au-dessus des nénuphars, les nymphéas que Monet a peint là au crépuscule de sa vie. Ces nymphéas que l'on va bientôt d'ailleurs pouvoir à nouveau contempler au musée de l'Orangerie. Mais il faudra patienter quand même jusqu'au 22 juin. Ouais. Oui. Alors la maison et les jardins de Claude Monet à Giverny sont ouverts tous les jours. Attention, il faut impérativement réserver sur le site de la Fondation Claude Monet. Dépêchez-vous, ça va très très vite. Bon, sinon, il y a quand même le village qui est magnifique. Et puis, dès lundi, tout près de là, au musée des impressionnismes, on pourra aussi admirer une centaine de photos et peintures de la très belle collection du musée. Alors, évidemment, des Monet, Bonnard, Signac et j'en passe.
Ouais. Diane, vous avez d'autres sites en plein air à nous conseiller ?
Oui, absolument. Les monuments nationaux ouvrent les uns après les autres. Lundi, ce sera l'Arc de Triomphe et l'abbaye du Mont-Saint-Michel, quand même. Et puis, dès demain, vous pourrez découvrir, par exemple, la Villa Savoie à Poissy, près de Paris. Moi, j'aime beaucoup. C'est un petit bijou de l'architecture Le Corbusier. Oui. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y, Nathalie, cette maison toute blanche. Oui, voilà, en béton armé, avec ses pilotis, son toit jardin, ses fenêtres qui s'étirent tout en longueur. C'est vraiment le symbole de la modernité. Villa classée monument historique dès 1964. Et puis, si vous êtes dans le sud, au bord de la Méditerranée, vous pouvez aussi vous promener dans les tours et sur les remparts d'Aigues-Morte qui ont rouvert il y a une semaine. C'est une très très belle balade, ces fortifications médiévales reliées par un canal à la Méditerranée. Enfin, je vous conseille, alors moi, c'est mon coup de cœur, la villa Kérylos près de Nice. Vous connaissez, qui a également rouvert, donc à Beaulieu-sur-Mer. Le site est splendide, car la villa surplombe évidemment la mer. C'est presque un voyage en Grèce. Cette maison blanche, là aussi, qui est la parfaite réplique d'une demeure de la Grèce antique, avec ses stucs, ses marbres de Carrare, ses bois exotiques, ses mosaïques et ses fresques. Une villa que s'est fait construire dans les années 1900, un archéologue français fasciné, bien sûr, par la civilisation grecque.
Voilà, il y en a pour tous les goûts, évidemment, avec vous, parce que la Villa Savoie, on est vraiment dans quelque chose de très minimaliste.
Oui, absolument.
Avec, évidemment, la Villa Kérylos, tout à fait autre ambiance. Oui. Donc, voilà.
Une invitation au voyage.
Exactement. Merci beaucoup, Diane Chénouda.
Il y a de quoi faire.
On continue, effectivement, de crapahuter comme ça et de visiter de beaux endroits. Avec vous, Chantal Collot-Dumont, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directrice du Festival international des jardins dans le domaine de Chaumont-sur-Loire. Alors c'est parti pour la 29e édition.
Oui, c'est parti. Nous avons eu peur de ne pas partir, mais les jardins sont bien là et ils sont magnifiques autour d'une thématique qui est d'actualité puisque ce sont les jardins de la Terre et qui nous incitent à renouer une relation harmonieuse avec la Terre, avec la nature.
Avec de vraies nouveautés, je crois qu'on monte même à une trentaine de nouveautés pour cette 29e édition.
Oui, on a 30 nouveaux jardins. On a les jardins qui sont issus du concours international. Et puis, on a des invités, ce qui fait que les visiteurs ont beaucoup à voir et oublient les conditions un peu particulières d'organisation de la visite. Ça leur permet de mieux voir, nous disent-ils. Et vraiment, on peut passer toute une journée à Chaumont.
Bah oui. Alors, vous avez d'habitude des participants du monde entier. Comment ça se passe cette année quand même ?
Alors, on a eu la chance que les concepteurs qui venaient de Chine et d'Inde ou d'Irlande soient venus avant le confinement. Alors, on a évidemment terminé les jardins des étrangers qui ne pouvaient pas revenir. On a trouvé toutes sortes de solutions, mais à Chaumont-sur-Loire, il y a beaucoup, un grand sens de l'adaptation. C'est dans l'ADN du festival. Et on a réussi à avoir nos 30 jardins, comme chaque année. Et on ne s'aperçoit pas des difficultés énormes que nous avons eues.
Bon, alors voilà, c'est parti pour cette 29e édition avec ses nouveautés, celui qui plaît toujours, qui surprend aussi beaucoup par sa beauté. Merci beaucoup, Chantal Collot-Dumont, de nous avoir donné envie. On est avec Aude, une auditrice qui nous appelle ce soir au 3921 depuis Reims. Bonsoir, Aude.
Bonsoir.
Vous êtes tout près de Reims précisément et autour de Reims, dans Reims, il y a de super balades à faire. Dites-nous un petit peu.
Oui, nous on a la chance juste à côté de chez nous d'avoir une toute nouvelle coulée verte qui remplace un chemin de fer en fait. Donc on traverse plusieurs villages, on les découvre autrement que par la route bitumée. Donc c'est super sympa, en vélo, à pied, c'est vraiment très mignon. Et puis à Reims, il y a la coulée verte le long du canal.
Ouais, donc très bien pour les balades en famille, à pied, à vélo, tout ça.
Puis sécurisé, donc il n'y a rien de mieux.
Et plusieurs kilomètres ?
Oui, plusieurs kilomètres. La nôtre, près de chez nous, fait 5 kilomètres.
Merci beaucoup.
Donc avec des petits bouts, c'est bien.
Oui, c'est idéal, évidemment. Merci beaucoup, Aude, pour cette petite balade avec vous. On se retrouve, nous, dans un instant. On continue, gastronomie, culture, les balades, les découvertes. C'est sur Europe 1 jusqu'à 20h dans votre grand journal du soir. Et on est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1, votre grand journal du soir qui passe en mode week-end, qui se balade en France et qui parle gastronomie également. On est en Vendée précisément avec vous, Pierre. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Pierre sur Europe 1. Ce week-end, vous enfournez votre VTT et vous filez en forêt. Où ça précisément ?
Alors, dans la forêt domaniale de Mervan-Vouvant, à deux pas de Fontenay-le-Comte.
La plus grande forêt de Vendée.
Comment ?
La plus grande forêt de Vendée.
Ah ça oui, 5500 hectares, avec plein de choses à voir. C'est à une période, ça a été surnommé la Suisse vendéenne.
Pour dire.
C'est pour dire. C'est beaucoup de dénivelé. Comment ?
Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y voit en effet ?
Alors, on y voit toute essence d'arbres. On y voit on y voit du gibier, des chevreuils, des cerfs, des biches, tous les animaux. On y voit des ruisseaux. On y voit le lac de retenue de Mervan qui alimente en eau potable. Tout ce qui descend vers La Rochelle et puis toutes les villes aux alentours. On y voit, il y a plein de choses à voir.
Donc vous, c'est
fréquenté par les marcheurs, les cavaliers, les vététistes.
On sait où vous trouvez ce week-end dans cette forêt avec votre VTT, Pierre. Merci beaucoup. Effectivement, le lac, le barrage, la fontaine, la base nautique, les ruisseaux, plus de 5000 hectares, il y a largement de quoi faire si vous êtes dans cette région de Vendée où le chêne d'ailleurs est omniprésent. Le charme de cette forêt qui tient à son relief, à ses ruisseaux et puis aussi de nombreux animaux, la faune sédentaire ou de passage profite de nombreux cours d'eau pour se nourrir et pour s'abriter comme nous le disait Pierre depuis sa Vendée. On va parler gastronomie dans un petit instant sur Europe 1 également avec David Gallienne qui est finaliste de Top Chef parce qu'on était à Giverny, vous vous souvenez, avec Diane Chenouda il y a quelques secondes. Giverny c'est bien sûr Monet, ses jardins, cette maison qu'on va visiter et puis ces jardins qui ont été pris d'assaut par les Parisiens juste au moment du déconfinement, quand on était encore dans la limite des 100 km. Il y avait du monde, on s'est bousculé dans ces jardins de Giverny. On va y retourner avec David Gallienne. Bonsoir David Gallienne. Ah, bonsoir, bienvenue, finaliste Top Chef, bien sûr, merci. Merci de nous répondre sur Europe 1. Je disais qu'on était à Giverny il y a quelques instants et ça tombe bien parce que la réouverture de votre restaurant, ça y est, c'est cette semaine, on y est.
Ça y est, on attendait ça avec impatience et effectivement, ça fait plaisir à voir en tout cas qu'on puisse réaccueillir du monde comme ça et ça fait vraiment chaud au cœur.
Ouais, alors comment ça se passe ? Parce que bien sûr, il y a eu un temps long, un temps mort, long, pénible. Comment ça se passe avant la reprise ? Comment on s'ordonne ? Comment on se met effectivement en ordre de bataille ?
Bien écoutez, le carnet de réservation s'allonge puisque je pense que grâce à l'émission, en tout cas à laquelle j'ai pu participer, ça suscite beaucoup de curiosité. Donc on est complet là pendant un mois à venir. On a commencé notre premier service hier et aujourd'hui encore la salle est pleine. Donc une fois que j'aurai raccroché, Je retourne à mes fourneaux.
Bah oui, bien sûr. Bon, vous, c'est Top Chef 2020, bien sûr, cette incroyable saison. Vous avez fait saliver les Français, vous leur avez, donné envie de cuisiner pendant ce confinement. Quel sentiment à l'issue de tout ça ? On est fiers quand même, non ?
Content, très très content d'avoir participé, puisque c'est souvent ce que je dis, hein. Top Chef, ça a été une réelle remise en question et chaque épreuve était un nouveau défi. Moi, j'ai beaucoup appris sur ma cuisine, sur moi-même également, à travers ce concours, et ça reste une aventure juste extraordinaire.
Ouais, évidemment, une aventure incroyable qui bouleverse une vie, une carrière, avec un supporter qu'on avait vu chez vous, Mika, quand même, supporter de David Gallienne. Ça aussi, c'était une petite raison supplémentaire, hein, de se réjouir.
C'est vrai que Mika c'est un de mes idoles et fervent supporter, donc je l'ai invité cette semaine à découvrir ma cuisine et il m'a fait ce plaisir là. On a passé un très très bon moment à table tous les deux et avec toute la famille et avec toute mon équipe, donc c'était vraiment vraiment très sympa.
Bah oui, forcément. Bon, est-ce qu'on en est encore sincèrement aux gestes barrières là à l'heure qu'il est ? On tombe le masque ou pas ?
Eh bien, il va falloir encore patienter un peu avant de tomber le masque. Hein.
Alors pardonnez-moi, j'ai pas entendu la fin.
Je disais qu'il fallait attendre encore un petit peu avant de faire tomber le masque.
Oui, c'est ça. Donc on reste prudent, mais il y a quand même un petit peu de rapprochement. On a un menu autour de combien chez vous, David Gallienne, pour donner une idée à nos auditeurs ?
Alors au déjeuner, on a une formule à 55 euros et ensuite notre menu dégustation en 3, 5 et 7 tableaux qui vont de 90 euros à 115.
D'accord. Et le soir ?
Le soir, c'est ça, 90 euros, 115.
Ok. Allez, une petite recette. Bon, enfin, une petite. Non, une grande, mais facile, parce que je ne suis pas très douée. Sympa à faire chez soi ce week-end. Bon, on adore l'avocat, du guacamole, par exemple.
Eh bien, moi, c'est quelque chose que je fais souvent avec les enfants à la maison. J'adore ça et c'est très simple, très ludique. Et tout simplement, hein, un avocat bien mûr. Un oignon ciselé très fin, des petites tomates cerises. Alors, je préfère mettre de la tomate cerise que de la tomate ordinaire. Ouais. Elle est plus sucrée, comme je suis un gourmand et que j'aime bien les choses gourmandes. Ouais. Et ben, je remplace souvent la tomate par la tomate cerise, de la coriandre fraîche, du jus de citron. Et ça c'est juste divin avec un bon pain de campagne ou une bonne tortilla. C'est juste fabuleux.
Ouais, bon, la tortilla, pour la recette, on repassera, c'est un peu plus long quand même que le guacamole. Mais bon, merci beaucoup. En tout cas, on a pris note de tout dans le bon ordre et avec les tomates cerises qui vont bien. Merci beaucoup, David Gallienne. Plein de bonnes choses pour cette réouverture, pour cette reprise, bien sûr.
Merci
à vous. Et voilà comment s'achève ce grand journal du soir, du vendredi, avec ces bons plans que l'on vous a fournis et les auditeurs qu'on remercie de leur fidélité au 3921 hashtag Europe 1, c'est lundi que l'on se retrouve dès 18h pour écouter ensemble Monde Changé. Dans un instant, c'est Émilie Mazoyer qui prend la suite, 20h musique, avec ce soir le concert de Janis Joplin lors de sa tournée, c'est au Canada en 1970. On a un vrai fan en régie. Pas qu'un peu. Allez, rendez-vous lundi à vous, Émilie Mazoyer, place à l'info juste avant. Et puis, soyons au rendez-vous après le week-end que l'on vous souhaite excellent. Salut à tous. Europe 1.